BFM Business, la France a tout pour réussir.
Et nous y voici justement dans ce studio de BFM Business. Bonjour Fabrice Le Sachet.
Bonjour Jérôme.
Porte-parole et vice-président du MEDEF. Alors chaque fois qu'on en se voit, c'est à l'occasion de cette REF. Je crois que c'est la quatrième fois. Je crois qu'à chaque fois, on se dit, est-ce que la prochaine rentrée sera sans crise? On a eu le Covid, on a eu plein de choses. Cette fois-ci, hyperinflation, conséquence de la guerre en Ukraine. Est-ce qu'une rentrée sans crise, c'est possible en économie en France?
Déjà, les crises, ça fait partie du quotidien des entreprises. Alors là, on parle de crise macro. Mais les chefs d'entreprise, ils ont l'habitude de gérer des crises au quotidien, en fait. Hein. C'est une succession de crises quand on est chef d'entreprise. En tout cas, moi, c'est comme ça de temps en temps que je le vis. Et là, la différence, c'est que ce sont des crises qui peut-être dépassent l'échelle simple de l'entreprise. Vous l'avez dit, il y a l'inflation. C'est vrai que c'est difficile en tant que chef d'entreprise d'infléchir la courbe de l'inflation tout seul. On peut changer des stratégies d'entreprise, mais c'est quand même très difficile d'y faire face. Le prix de l'énergie, les demandes d'augmentation de salaire, les pénuries de main-d'œuvre, et sur ces sujets-là, c'est l'action collective. Et donc, c'est pour ça que des organisations patronales, qui peuvent être parfois décriées, ont toute leur utilité pour peser. Alors, sur l'inflation, évidemment, on ne peut pas peser directement sur les marchés, mais
sur la hausse des salaires, c'est un peu plus possible.
On peut permettre peut-être que les réglementations qui permettent de limiter les dommages collatéraux soient mises en œuvre. On peut, sur les pénuries de main-d'œuvre, ça a touché tous les secteurs. Cet été, vous avez dû partir, je l'espère pour vous en tout cas, en vacances ou aller une fois dans un restaurant. Vous avez vu qu'il y a des restaurants...
On manquait de monde partout.
Partout. Il y a des ailes d'hôtel fermées.
Absolument.
Et donc, avec un chômage à peu près 7%, on ne peut pas accepter d'avoir autant de pénuries. Et là, je parle de l'hôtellerie-restauration, mais on pourrait
dans bien d'autres secteurs.
Le transport de cars scolaires, on recherche le transport routier, etc.
Et vous parliez de la hausse des salaires. Comment les patrons peuvent répondre à cette demande souvent légitime face à une telle inflation, à cette demande légitime de la hausse des rémunérations?
Mais là aussi, en fait, la hausse des salaires, déjà, ce n'est pas quelque chose qui est tabou par essence. Il y a des négociations qui sont faites tous les ans. Dans les entreprises, il y a des trajectoires qui sont discutées avec les représentants du personnel. Et c'est quelque chose, j'allais dire, de normal. La question, c'est quelle est la trajectoire, quelle est la puissance qui est donnée à la hausse des salaires. Et effectivement, dans une période de forte inflation, il y a une demande qui est un petit peu plus, j'allais dire, musclée des salariés. Et lorsqu'on peut, on y répond. Mais le salaire est une chose, il y a aussi les outils de participation, d'intéressement, de primes exceptionnelles ou de primes défiscalisées. Il y a aussi le rachat de RTT. Il y a aussi la possibilité de faire des heures supplémentaires qui maintenant sont défiscalisées, donc c'est simplifié pour les entreprises. Il y a cet ensemble d'outils qui est à disposition des chefs d'entreprise. D'ailleurs, nous, on pousse pour que l'intéressement, la participation, l'actionnariat salarié se développe. Il y a 2 millions de salariés actionnaires dans le pays. Quand les entreprises font des profits, les salariés font des profits également.
Et ça vous a rassuré qu'on ne parle plus ou moins de taxation des super-profits? C'est ce qu'a dit Elisabeth Borne ici
même. Mais ce n'est pas une question de rassurer, c'est un mot qui est trompeur. Ça laisse croire que toutes les entreprises se sont gavées de profits.
Et
déjà,
c'est pas le
d'une
cas.
Part, mais bien sûr que non. Vous regardez la structure des PME, le taux de marge des entreprises aujourd'hui en France, c'est dramatique. Dans certains secteurs, c'est 1%, 2% de taux de marge. Ça veut dire qu'au moindre souffle, au moindre frisson, ils sont par terre parce qu'ils n'ont pas de fonds propres. Et on parle de décarbonation, il va falloir 40 milliards d'euros par an. On parle de numérique, vous savez qu'il faut des investissements dans le numérique. Hein, c'est pas en claquant des doigts. On parle de RSE, de nouvelles façons de travailler, il faut des investissements. Et maintenant, on a aussi ces différentes pressions qui viennent du contexte international, géopolitique et des problèmes de recrutement. Et donc, on peut pas tout faire tout seul. Donc, il y a d'autres leviers, le logement dans les métropoles, il y a d'autres leviers, le prix des carburants, il y a d'autres leviers, la mobilité. Il faut travailler sur tous les leviers.
Est-ce que les sujets qui vous sont chers, on a bien compris l'actionnariat salarié, la participation, la défiscalisation des heures sup, etc. Est-ce que sur ces points, le gouvernement va assez loin? Est-ce que vous attendez plus? Et est-ce que vous attendez plus aussi sur la baisse des impôts de production? Enfin, c'est un de vos combats depuis de nombreuses années.
Alors déjà, peut-être qu'on peut faire un petit peu plus sur l'assurance chômage. Il y a eu une première réforme, elle n'a pas donné son plein effet pour le moment. En tout cas, on pensait qu'elle aurait plus d'impact, de réincitation à prendre un emploi. Aujourd'hui, quand on voit le nombre de demandes qui ne sont pas satisfaites, on doit s'interroger sur un système qui aujourd'hui est rigide. Il n'est pas en accordéon. C'est-à-dire qu'on devrait avoir une clause de retour à meilleure fortune. C'est-à-dire quand la situation se tend sur le marché de l'emploi, c'est là où l'assurance chômage, les revenus de remplacement doivent jouer leur plein effet. Lorsqu'il n'y a pas de travail, lorsque quelqu'un cherche et qu'il n'y a pas de travail, c'est là où l'accordéon doit se déployer, la solidarité nationale au plus fort. Mais là, en l'espèce, on peut pas, j'allais dire, continuer à avoir cette situation. Il faut accepter qu'il y ait de la mobilité géographique. Il y a des gens qui veulent pas changer de ville à un moment donné. C'est pas à la société de sponsoriser ses choix de vie. Il y a un moment donné où oui, il y a du travail disponible dans des bassins d'emploi. Ben, il faut aller les prendre. Et de temps en temps, il faut déménager. Alors, ça veut dire qu'il faut un logement dans les métropoles qui soit un coût abordable, parce que si c'est pour perdre de l'argent, il n'y a aucun salarié qui voudra. Ça veut dire que quand un salarié doit faire des kilomètres, il y a 80% des salariés qui utilisent leur véhicule,
sujet.
Bah, il ne doit pas et perdre plus, d'argent, c'est normal, et on le comprend.
Un sujet d'écologie aussi là-dessus. Je reviens à ma question sur les impôts de production. Est-ce que vous voulez plus? Est-ce que vous voulez la suppression en une seule fois de la CVAE dans le budget 2023?
Mais ce n'est pas qu'on en veut plus, c'est qu'on regarde deux choses. On regarde à la fois le comparatif par rapport à des voisins. Donc on avait un handicap majeur qui consistait à avoir à peu près des impôts de production, donc sur la production en France, qui étaient 7 fois plus élevés que nos voisins d'outre-Rhin. Et donc, pour faire cette correction, on a commencé, on a rattrapé une partie du chemin. Mais si le chemin, si on a alourdi de 20 et qu'on a récupéré 3, il y a 17.
Il faut encore
donc
aller plus loin.
Il faut continuer. Mais il faut continuer pourquoi? Quel est le sens de ça aussi? Il faut un choc d'investissement dans la décarbonation. Et nous, on a fait auditer combien il faudrait d'argent. Et donc, c'est à peu près 40 milliards d'euros. Et donc, oui, il y a une partie qui doit être faite avec les impôts de production.
Et dans vos entreprises, baisser les coûts de l'énergie et la consommation d'abord de l'énergie de 10%, telle que l'a souhaité Elisabeth Borne, ça vous semble possible ou c'est quand même assez compliqué dans les prochaines semaines?
Excusez-moi, mais on ne découvre pas le sujet de l'énergie aujourd'hui. Hein. Donc, quand on arrive ici à Longchamp en nous disant, on ne découvre pas aujourd'hui. On le fait depuis toujours. Pourquoi? Parce que l'énergie, c'est un poste de coût. Et donc, chaque chef d'entreprise rationnel cherche justement à la rationaliser. Il y a des technologies disponibles. On a baissé de 1,5 point l'utilisation d'énergie dans les entreprises en 10 ans. Or, ça vous montre aussi la marge pour faire 10% d'économie en plus. Ça veut dire que là, on est arrivé à un plafond. On pourra toujours faire avec baisser le chauffage, parce qu'on va revisiter les règles du choc pétrolier. Baisser la clim, peut-être un peu de covoiturage, etc. Mais la réalité, c'est qu'il y aura des innovations de rupture. Et pour ces innovations de rupture, il faut de l'investissement. Et pour investir, il faut des marges. Et donc, une partie du problème des marges en France, c'est la pression fiscale. Et oui, le MEDEF, et c'est pas qu'il est obsessionnel, mais c'est qu'on en revient toujours au même point. On ne change pas fondamentalement la donne sur la fiscalité. Il y a des efforts qui sont faits, sur l'IS notamment. Et d'ailleurs, je tiens à faire remarquer à ceux qui vous écoutent,
il a déjà baissé.
Qui nous écoutent, et qu'il a baissé, mais qu'il a rapporté plus d'argent à l'État. Il a rapporté plus d'argent à l'État.
Parce
donc,
que les entreprises...
fiscalité qui baisse stimule l'activité et rapporte plus d'argent dans les caisses de l'État.
Le message est très clair. Un mot, enfin, il nous reste 30 secondes, Fabrice Le Sachet, sur ce sondage que vous avez commandé à l'IFOP sur l'état d'esprit des entrepreneurs. Ils sont plus optimistes sur eux-mêmes, un peu plus sceptiques sur la situation de l'économie française. Qu'est-ce que vous retirez-vous de ce sondage?
Déjà, c'est qu'on traverse des crises et qu'on a un optimisme des chefs d'entreprise, parce que la réalité qu'on voit dans nos boîtes, c'est qu'il y a quand même des carnets de commandes. Il y a du dynamisme, il y a de la prise commerciale, il y a des tensions. Et donc, c'est vraiment un problème d'essayer de gérer les chaînes d'approvisionnement, la problématique des matières premières, des matériaux, des matières rares, etc. C'est de réussir à connecter tous les points pour sortir les produits, les services que les clients veulent, en temps et en heure, sans perdre d'argent, parce que ça va très vite. On a des espèces de yo-yo sur l'énergie, etc. Et même quand des boîtes de la construction font des devis, une semaine après, c'est déjà périmé. Absolument. Et donc, c'est ces difficultés-là. Mais ça, j'allais dire, c'est aussi notre job de le faire, et on le fait.
Un mot enfin sur la fin de l'époque de la team Roux-Bézieux, si je puis dire. Le mandat de l'actuel président s'achève en 2023. Vous serez où, vous, l'année prochaine?
Il y a toujours de la continuité, en tout cas, au MEDEF.
Et vous des
engagements de long terme dans ces organisations. Donc, je ne sais pas si c'est le départ ou pas le départ. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a toujours de la continuité dans l'action, parce que le MEDEF dépasse les personnes. Et donc, je suis certain que quel que soit le futur président ou la future présidente, il y aura une continuité d'action. Et en tout cas, on sera tous aux côtés, j'imagine, de la future présidente ou du futur président.
Eh bien, avec plaisir. Merci beaucoup,
merci.
Fabrice Le Sachet, d'avoir été l'invité de cette émission de reprise de La France a tout pour réussir. On va à présent s'intéresser à deux secteurs qui montrent justement que notre pays a tout pour réussir. C'est à la fois les énergies renouvelables, mais c'est aussi la santé et la téléconsultation. On en parle dans un instant avec nos deux invités.
BFM Business, la France a tout pour réussir.
Et en effet, dans la deuxième partie de cette émission de rentrée de la France à tout pour réussir, c'est la saison 7, je vous le rappelle, pour notre rendez-vous 287e numéro. Eh bien, on va parler de deux secteurs dans lesquels on pense vraiment que la France a tout pour réussir. On vous le prouve tout au long de nos émissions. Il s'agit de la santé et des énergies renouvelables. Avec moi, donc, deux invités. Bonjour, Eric Scotto.
Bonjour.
Vous êtes président et cofondateur d'Acuo. On va en parler dans quelques instants. Et à vos côtés, sur votre droite, bonjour, Elidan Mimouni.
Bonjour, Jérôme.
Vous êtes également le cofondateur de Medadom, dont on avait parlé également dans cette émission il y a quelques mois, à l'occasion d'une levée de fonds. On est là dans le domaine de la téléconsultation, de la télémédecine. Je commence avec vous, donc, Eric Scotto. Acuo, vous l'avez cofondé en 2007 avec Patrice Lucas. Présentez-nous votre activité. Vous êtes un producteur indépendant français d'énergie renouvelable. Expliquez-nous ce que vous faites.
Alors c'est très simple, on produit de l'électricité à partir de ressources naturelles, le vent, le soleil, on la stocke grâce à des batteries, donc nous notre métier c'est de développer des centrales, de les construire et de les exploiter sur le très long terme. Donc on a une vision très très long terme de l'entreprise, de notre présence au cœur des territoires, donc un métier simple, produire des électrons qui vont servir derrière aux usages primaires de l'énergie. Comme ici, on a un studio, il y a des lampes
beaucoup
qui sont allumées.
Voilà.
Mais depuis quelques temps, on s'aperçoit que ces électrons verts peuvent aussi servir à la mobilité, hein, toute forme de mobilité. Donc voilà, donc on est la source même de tous les usages électriques du futur.
Et dans l'éolien, dans le solaire, dans l'hydraulique et dans l'hydrogène même, hein, depuis quelques temps, hein, c'est bien cela?
Alors, dans l'hydrogène, on se contente de fournir les électrons qui vont être transformés en hydrogène. Donc c'est toujours la même ressource. C'est donc cette énergie qui provient du vent, qui provient du soleil majoritairement, un petit peu d'hydraulique dans certains pays. Et derrière, il y a une partie stockage si elle est nécessaire pour le réseau.
Alors dans l'énergie, on parle de capacité, on parle souvent de mégawatts et de gigawatts. Vous, quel est le chiffre clé que vous mettez en avant pour Acuo?
Alors chiffre clé, tout ça prend du temps, puisque développer prend du temps, il faut avoir des autorisations, il faut financer, il faut construire. Donc jusqu'à aujourd'hui, on a installé 1,4 gigawatts, ce qui est assez important. Mais ce qui est notable, c'est l'accélération. Nous allons, dans les 12 mois qui viennent, mettre en chantier l'équivalent, même un peu plus, de ce que l'on avait déjà installé, puisque tout ça est en train de mûrir, les projets mûrissent, et donc on va installer 1,6 gigawatts. Ce qui fait que dans les 12 mois, on sera à peu près à 3 gigawatts.
Ouais. En France et dans quel pays essentiellement?
Alors, pas qu'en France, puisque nous sommes dans une vingtaine de pays. Bien sûr, on a un groupe français, nous avons démarré en 2007, comme vous l'avez dit, en France. Mais aujourd'hui, on est sur les 5 continents, dans 30 pays exactement, à partir de 20 bureaux. On a 20 implantations physiques dans le monde.
Alors, votre parcours, justement, donc la co-création de la société en 2007, mais vous-même, vous étiez déjà dans le secteur avec Perfect Wind, c'était en 2003. C'était quoi cette première aventure et pourquoi avoir bifurqué vers une autre aventure, celle d'Acuo?
C'est l'ancêtre, en fait, c'est la genèse de tout. 2003, dans l'éolien, on est une poignée. Hein, c'est aujourd'hui, ceux qui sont encore là, ça se compte sur les doigts d'une main. Et donc, on avait une technologie qui était la plus mature, qui était la technologie éolienne. Donc, on s'est lancé sur la promotion de l'éolien en France et déjà en Turquie et en Pologne. Donc, déjà cet appétit pour l'étranger. Mais on est dans un secteur extrêmement capitalistique. Et donc, en 2006, on avait eu beaucoup de succès, on avait été très vite. Et il fallait beaucoup d'argent pour construire tous ces projets, on avait construit un certain nombre, et on a fait un choix qui a été de vendre la France au numéro mondial de l'époque, l'électricien espagnol, ce qui nous a donné les moyens de nos ambitions, et donc de diversifier le projet, d'aller vers d'autres technologies comme le solaire, l'hydraulique, et surtout d'aller vers plus de pays, et donc de se diversifier géographiquement, en restant indépendant, ce qui est le maître mot de cette action qu'on a décidé en vendant contre-cœur, mais contraint et forcé pour pouvoir continuer.
Vous parliez d'un secteur très capitalistique. Est-ce qu'en termes de rentabilité, on a l'impression qu'on est à un moment où ça commence à payer enfin? Il y a beaucoup d'investissements, vous le rappeliez, et on a l'impression, et notamment dans l'éolien, mais pas que les investissements qui sont très très lourds sont en train d'être intéressants, et pour vous, et pour l'État d'ailleurs aussi, puisque au départ, beaucoup de subventions, mais ensuite, quand vous commencez à être rentable, vous commencez à reverser une partie de vos profits dans les caisses de l'État. C'est bien ça, le modèle économique est en train de changer?
Alors, le modèle économique, il est en train de changer puisqu'il est quasiment plus subventionné. Peut-être dans certains pays où ça arrive encore, mais aujourd'hui, ce sont des processus compétitifs, des appels d'offres. Nous-mêmes, nous sommes des spécialistes de la vente de cette énergie sur le marché. Donc, c'est très intéressant puisque pendant longtemps, on nous a parfois
d'être des aspirateurs de subventions,
qualifiés d'énergéticiens alternatifs.
Ouais.
Et aujourd'hui, ce qui nous fait plaisir, c'est qu'il n'y a aucune autre alternative aux énergies renouvelables.
Donc, et le nucléaire, c'est quoi ? Vous le mettez dans quoi ?
Alors, en fait, ce que j'appelle énergie renouvelable, c'est celle qui provient de ressources naturelles, qui n'envoie pas la facture tous les jours. Le soleil ne m'envoie pas la facture, comme disait Jérémy Rifkin dans le film Demain. Ouais. Je ne paye pas le vent et je ne suis pas soumis à des intrants. Ce qui fait que, et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent, c'est que pour maîtriser le coût de l'énergie, aujourd'hui et demain, il n'y a pas d'autre alternative que les énergies renouvelables. Pourquoi ? Parce que le processus, c'est on doit faire appel au capital, aux banques pour nous financer. Donc qu'est-ce qui a changé ? C'est qu'il y a 20 ans, il fallait prêcher dans le désert. Aujourd'hui, on a la confiance de tous les intervenants financiers de la planète pour soutenir ce secteur. Donc ça, c'est fait. C'est plus facile. Ensuite, on doit leur donner confiance sur le fait qu'on remboursera la dette.
Absolument.
Et donc, on s'engage à vendre notre électricité à des prix prédéfinis sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est une chance pour les consommateurs, une chance pour les entreprises, puisqu'il n'y aura pas de variation du prix au fil du temps. Et c'est ça qu'on doit rappeler en permanence et sur lequel il faut insister, la chance de nos entreprises et de nos sociétés pour maîtriser le coût de l'énergie passe par les énergies renouvelables.
Et dans ce domaine, la stratégie de la France, il y a eu plusieurs étapes, mais quand même une étape de long terme pro-nucléaire qui nous sert bien maintenant, même s'il y a eu quelques allers-retours. Et sur les énergies renouvelables aussi, cette stratégie, vous la jugez erratique ou bien plutôt cohérente et qui va dans le bon sens ?
Revenons pas sur le passé, regardons devant. Je crois qu'il y a eu des stratégies erratiques un petit peu partout dans le monde. C'est normal, vous passez d'un monde qui a fonctionné d'une certaine façon pendant 100 ans à partir d'énergies fossiles, des mécanismes, des influences, des multinationales qui dirigent ce secteur, à un monde plus morcelé, plus complexe, plus protéiforme. Donc tout ça, ça ne se fait pas facilement. Par contre, aujourd'hui, il n'y a pas un seul État aujourd'hui qui n'a pas compris. La pandémie nous a aidé à comprendre aussi la nécessité d'aller vers une autonomie, de produire soi-même son énergie, maîtriser ses coûts. Ça, c'est quelque chose qui a été complètement exacerbé pendant la pandémie. La réindustrialisation, je crois qu'on en parle beaucoup ici, de Absolument. Nos territoires, produire localement. Donc, les énergies renouvelables, c'est tout ça à la fois. Donc, c'est dans cette direction que nous allons. Et aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, c'est demain et en ce moment, beaucoup d'États prennent des mesures d'urgence.
Absolument.
Parce qu'ils ont compris que, à côté de leur mix énergétique traditionnel, si on veut répondre à la demande et éviter d'être en manque d'énergie, ce qui est un peu le cas un peu partout en Europe aujourd'hui, il faut accélérer la promotion, l'installation des énergies renouvelables.
Autre secteur, je le disais, qui est en pleine croissance en France, c'est la santé. Dans cette émission, on reçoit souvent des biotech, des medtech. On en a beaucoup parlé lors de la saison 2021-2022. Racontez-nous, Elidane Mimouni, quelle est l'histoire de Medadom que vous avez co-créé. C'était en 2017, mais lancé vraiment en 2019.
Exactement. Donc on a créé Medadom en 2017. C'est une plateforme de mise en relation entre des professionnels de santé et des patients pour de la téléconsultation dans le cadre de soins non programmés. Vous avez deux grandes formules, deux grands modèles. Le premier, c'est une application mobile et web sur laquelle le patient se connecte, s'enregistre, puis accède à un médecin en moins de 10 minutes avec une ordonnance si nécessaire, un compte-rendu médical qui lui est adressé à son médecin traitant.
Mais sans mesure prise, sans mesure de tension cardiaque, etc. Il n'y a pas ça.
Exactement. Ça, c'est le premier modèle, c'est ouais. l'application mobile et web. Et le second, c'est les bornes et les cabines de téléconsultation qu'on a développées sur l'ensemble du territoire national, qui sont placées principalement dans des officines. Et donc,
ces bornes. Les pharmacies.
Exactement, voilà. En pharmacie. Ces bornes sont composées de 6 dispositifs qui vont permettre d'améliorer le diagnostic et d'avoir un diagnostic beaucoup plus complet côté patient et également pour le médecin.
Et on fait soi-même ces autotests, ces autoprises de mesures ou est-ce qu'on est accompagné soit par le pharmacien, soit par un médecin qui est à distance ?
Alors le médecin pilote à distance les objets connectés et selon l'autonomie du patient, il est accompagné ou il n'est pas accompagné. Dans 80% des cas, le patient est autonome face au dispositif de santé. Donc on a un otoscope qui permet d'observer le tympan de l'oreille lors d'une otite. On a un dermatoscope pour observer les lésions cutanées. Et ensuite, on a des thermomètres, saturomètres pour la saturation en oxygène. Et on a également un tensiomètre pour la tension artérielle.
Les chiffres clés, combien de téléconsultations depuis la création de l'entreprise et combien de dispositifs sont en service, que ce soit les bornes, les cabines ou même depuis cet été, je crois, des consoles un peu plus légères.
C'est ça. Alors, on a développé depuis le mois de juillet des consoles, une console qui est beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus souple pour les entreprises et les officines de plus petite taille, ce qui va permettre de toucher d'autres secteurs de marché. Et donc aujourd'hui, on a 2500 dispositifs déployés sur l'ensemble du territoire national et on va arriver à plus de 1 million de téléconsultations d'ici avant la fin de l'année.
Alors vos cibles, vous en avez parlé, ce sont les pharmacies, il y a aussi les collectivités territoriales, notamment les mairies, mais il y a aussi les entreprises. On est ici à la rencontre des entrepreneurs de France. Est-ce que les entreprises jouent le jeu de cette téléconsultation ?
On a certaines entreprises qui font appel à nos services puisqu'elles souhaitent se doter et s'équiper de bornes ou de cabines de téléconsultation pour leurs collaborateurs, pour leurs employés. Pour résoudre la problématique à la fois des certifications médicales, mais également la QVT, la qualité de vie au travail.
Quel est le coût, quel est le modèle économique pour celles et ceux, que ce soit les pharmacies, les collectivités ou donc les entreprises qui ont recours au service de Medadom? C'est un système d'abonnement?
Oui, c'est un système d'abonnement pour les pharmacies, les entreprises ou les collectivités territoriales. C'est 219€ sur 36 mois pour une borne et 390 sur 48 mois pour une cabine de téléconsultation.
Alors, je le disais, donc en plein essor, c'est lié au Covid. Ça vous a finalement aidé. Maintenant, votre combat, en espérant que la crise Covid soit un peu derrière nous quand même, c'est la lutte contre les déserts médicaux. Vous en parliez. Est-ce que vous avez des chiffres sur l'état de la France en termes de déserts médicaux? Combien de Français sont concernés par ce phénomène?
Alors, 2/3 des Français vivent aujourd'hui dans un désert médical. Et d'ici 2025, 27 millions seront également dans des déserts médicaux. Donc aujourd'hui, on a un réel problème lié à l'accès aux soins partout en France. Et ça va accélérer. Et on l'a vu, l'usage de la téléconsultation a été catalysé lors de la crise Covid. Et cette tendance est toujours présente. On voit une accélération de l'usage de la téléconsultation.
Vous avez aussi intégré le Paris Santé Campus, c'est dans le 15e arrondissement, juste derrière le parc des expositions, un site de 20 000 m² qui regroupe à la fois des start-up, des grands groupes, des instituts de recherche. Est-ce que vous diriez, on le voit souvent, des entreprises qui se rassemblent en site, en campus, en cluster, est-ce que vous diriez que l'union fait la force pour que la France avance mieux dans ces domaines de la medtech et de la biotech notamment?
Oui, on a de grands défis en santé et notamment dans la e-santé en France. Et le fait d'avoir des pôles comme le Paris Santé Campus va permettre d'être à la confluence entre différents acteurs, à la fois les acteurs publics et les acteurs privés que nous sommes, pour améliorer le système de santé et promouvoir et développer des solutions innovantes pour les patients.
Un mot encore sur votre évolution au sens capitalistique. Vous avez annoncé une levée de fonds, c'était début 2021. J'avais reçu votre associé Nathaniel Bern. Est-ce que d'autres levées de fonds sont dans les tuyaux pour les prochains mois?
Pour l'instant, on y réfléchit, mais c'est pas d'actualité.
C'est pas d'actualité. Une question à vous deux pour finir. Cette émission s'appelle La France a tout pour réussir. Ça fait plus de 6 ans qu'elle est à l'antenne. Est-ce que le slogan, qui est celui de notre chaîne, il est encore d'actualité? Est-ce que vous croyez aux capacités de la France à réussir? Eric Scotto, pardon.
Alors, il est complètement d'actualité. C'est plus que jamais. Plus que jamais. On a tout pour réussir. Maintenant, il faut s'y mettre. Et puis, surtout qu'on n'ait pas de frein. Parfois, on se bat contre un système, des lenteurs d'instruction, de dossiers, etc. Donc, si on veut, je parle pour mon secteur, réussir plus, donner envie à plus d'entrepreneurs de se lancer, il faut simplifier les procédures. Mais ça, je crois que le gouvernement l'a compris, de façon à ce qu'on puisse accélérer l'instruction des dossiers et donc construire plus rapidement les capacités en énergie renouvelable dont nous avons tous cruellement besoin et dont nous aurons besoin dans les années à venir. Donc oui, on peut réussir.
Et le pessimisme un peu surprenant qu'a affiché Emmanuel Macron à la sortie de l'été, il a surpris pas mal de monde, il vous a surpris aussi, lui qui était un peu l'incarnation de la Startup Nation et de son éternel optimisme?
Ah, écoutez, la situation géopolitique quand même, la situation mondiale, elle est pas simple. On a le droit parfois d'avoir des petits coups de mou, surtout quand on voit tout ce qui se passe. Mais le propre à la fois d'un chef d'État et puis des chefs d'entreprise, c'est de rapidement passer à autre chose.
C'est la résilience.
Voilà, et sans oublier ce qui se passe, bien entendu. Mais justement, il y a deux réactions, où on s'enfonce ou on se défonce. Mais dans le bon sens du terme.
Moi, je dirais donc avec vous, oui.
La France doit réussir, a tout pour réussir. Et c'est différent puisque aujourd'hui on a tout le cocktail pour permettre cette réussite, à la fois l'industrie, à la fois l'innovation, la technologie et le gouvernement, qui poussent et déploient des dispositifs à la fois réglementaires pour permettre cette réussite à la fois économique et en innovation.
Et bien, c'est ce qu'on souhaite à vos entreprises et à la France de manière générale. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de cette première émission de rentrée de La France à tout pour réussir. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine dans le studio de BFM pour ce qui sera donc le 288e numéro de La France à tout pour réussir. Très bon week-end, très belle semaine. À très vite sur BFM Business.
BFM Business, la France a tout pour réussir.